Carrefour des Amériques, Marcel Quillé-Véré.
Le Brésil, la musique et le monde, 13e chapitre, Getúlio Vargas et la dictature de l'Estado Novo. Soyez toutes et tous les bienvenus dans ce nouvel épisode de Carrefour des Amériques, un épisode tout en contraste, comme le Brésil lui-même, qui se trouve en ce milieu des années 1930, de nouveau dans la tourmente, alors qu'on prépare de nouvelles élections et qu'une conspiration s'organise en haut lieu. Au début de l'année 1937, le ciel semble pourtant bien dégagé, rien ne laisse présager le pire. Avant les déflagrations prochaines, le climat est plutôt au beau fixe et les Caraïbes font même souffler leurs vents sentimentaux sur l'Atlantique brésilien qui se met à chanter des boléros. Ce chant sentimental né à Cuba à la fin du 19e siècle qui a conquis depuis des années toute l'Amérique latine, le voici donc qui débarque au Brésil, notamment sur la scène du théâtre Carlos Gomes de Rio de Janeiro avec la compagnie de revue cubaine venu directement de la Havane en juillet 1937. Mais le boléro le plus célèbre cette année-là est mexicain. Il évoque un petit chemin au clair de lune où est né un amour à jamais perdu sur la côte d'Acapulco ou de Veracruz. C'est le célèbre Vereda Tropical, le sentier tropical composé par Gonzalo Curiel et créé par Lupita Palomera. La Vereda Tropical est même devenue une série télévisée brésilienne à succès sur la chaîne Globo en 1984.
Y el rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con él yo fui noche por noche hasta el mar para besar su boca fresca de amor. Y me juró quererme máximo sin olvidar jamás aquellas noches. Recordar, mis ojos mueren de llorar y el alma muere de esperar. Hazlo volver a mí. Quiero besar su boca otra vez.
En 1936, le cinéma mexicain est arrivé lui aussi en force sur les écrans brésiliens avec ses cow-boys, Los Charros et la star Lupe Vélez. De plus, le gouvernement du président Lázaro Cárdenas, élu en 1934, qui s'est beaucoup rapproché des paysans et des communautés indiennes, ne laisse pas indifférent le président brésilien Getúlio Vargas. notamment en ce qui concerne l'éducation publique dans le pays qu'il tient à réformer. C'est ainsi que le maire de Rio de Janeiro, Pedro Ernesto, confie au progressiste Anísio Teixeira la tâche de mener à bien cette réorganisation de l'enseignement dans le district fédéral. Et c'est Manuel Correa do Lago de l'Académie brésilienne de musique qui nous explique.
Il ne faut pas oublier que le gouvernement Vargas est le gouvernement qui commence avec les lois travaillistes de protection du travail depuis très tôt, donc ça commence déjà en 30-31. Donc Pedro Ernesto était un chirurgien, un grand médecin, mais très préoccupé avec les questions sociales. Ce n'était pas vraiment un homme de gauche, mais c'était un homme très préoccupé avec les questions sociales. Il est maire de Rio. C'est Pedro Ernesto qui va appeler les jeunes éducateurs. Il voulait changer la manière d'organiser l'éducation au Brésil et de la rendre proche de la vie brésilienne. Et donc Anísio Teixeira, qui avait fait ses études aux États-Unis, revient avec des idées très nettes d'une éducation plutôt participative. Et il est nommé par Pedro Ernesto pour organiser l'éducation dans le district fédéral. Alors la mission de Anísio Teixeira, c'était organiser une éducation dans les écoles publiques brésiliennes, donc dans les écoles gratuites, où on privilégiait des activités comme le théâtre, comme la musique, plusieurs manifestations d'expression corporelle ou artistique. Ce n'était pas un nationalisme à la mexicaine, ce n'était pas Cárdenas, mais c'était un nationalisme dans le sens de regarder le pays, c'est-à-dire de ne pas regarder l'Europe toujours comme un modèle, et surtout valoriser l'ethnicité brésilienne dans le sens du mélange.
Le deuxième mouvement du Quatuor numéro 6 de Aitor Villa-Lobos par les musiciens mexicains, décidément, du Quarteto Latino-Americano. Un quatuor écrit en 1938 qui participe de cet enthousiasme de redécouverte de la mosaïque culturelle brésilienne. Villa-Lobos a été l'un des premiers pionniers de l'entreprise d'éducation populaire menée par le gouvernement. Quand il a fondé ses conservatoires appelés orphéoniques, à l'origine d'une véritable éclosion de chorales dans les écoles du pays. En 1937, il fait lui-même répéter ses chœurs dans les quartiers les plus pauvres de Rio. La mise en place par Teixeira de ce plan d'éducation attire un grand nombre de talents du Brésil, tout parti et idéologie confondus, à commencer par le poète le plus célébré ces années-là, Carlos Drummond de Andrade. Le peuple brésilien s'est approprié ses premiers poèmes, entre autres ceux où il évoque sa jeunesse à Itabira, dans les paysages magnifiques de l'état du Minas Gerais.
Infância.
Enfance.
Meu pai montava a cavalo e ia para o campo.
Mon père montait à cheval.
Minha mãe ficava
Il partait pour les champs et ma mère restait assise, elle faisait de la couture. Mon petit frère dormait. Moi, enfant solitaire, au milieu des manguiers, je lisais l'histoire de Robinson Crusoe, une longue histoire qui n'en finit pas. Dans la lumière blanche de midi,
une voix qui avait appris à chanter des berceuses autrefois dans les baraques d'esclaves et qui ne les avait jamais oubliées, nous appelait pour prendre le café. Un café noir, plus noir encore que la vieille femme, un café délicieux, un bon café. Là-bas au loin, mon père parcourait la campagne infinie de la fazenda et moi je ne savais pas que mon histoire serait plus belle encore que celle de Robinson Crusoe.
Une légende de la campagne du Sertão, composée par Francisco Mignone en 1938 et interprétée par Sergio Barcelos pour évoquer le vers paradis de l'enfance du poète Drummond de Andrade. Il a alors 28 ans et il devient la figure de proue de la poésie brésilienne de ces années-là. En 1934, il quitte son Minas Gerais natal et va vivre à Rio, où il s'approche du Parti communiste. Il devient journaliste avant d'entrer dans la fonction publique au ministère de l'Éducation, un poste qu'il ne quittera jamais. Quant au compositeur, Aitor Villa-Lobos, il est lui aussi un grand fonctionnaire, surintendant de l'éducation musicale. En 1935, à l'occasion de la création scénique de son ballet Uirapuru au Théâtre Colonne, il a accompagné en Argentine le voyage officiel du président Vargas. Il est devenu en quelque sorte un ambassadeur culturel. D'ailleurs, l'année suivante, il représente son pays au Congrès sur l'éducation musicale de Prague et fait partie du jury du concours de Vienne, consacré au piano et au chant, aux côtés de Bruno Walter, Felix Weingartner et Wilhelm Backhaus. C'est cette année-là qu'il se sépare de sa femme. Il vit alors avec Arminda Neves da Almeida, Mindinha comme il l'appelle. Il l'avait rencontrée lors d'un rassemblement de chorale. Elle prendra officiellement son nom, même s'il n'a jamais divorcé. Dans ses nouvelles compositions, il évoque lui aussi un certain très bucolique, notamment dans son cycle brésilien pour le piano « Impressões Celesteiras », ce mot « celestas » qui évoque les musiques à la tombée de la nuit dans les villages. Thank you.
Villa-Lobos et les petites musiques de nuit dans la campagne brésilienne, Magda Taliaferro au piano. Aux côtés de cette campagne bucolique, il existe un certain autrement plus dur, plus tragique. C'est celui du Nord-Est, pauvre, aride, où depuis 1930, la violence s'est emparée à nouveau de la région. De nouveaux justiciers, les cangaceiros, à la fois redresseurs de tort et bandits de grand chemin, s'affrontent aux forces de l'ordre. Soutenus en général par les populations les plus pauvres, victimes de trop d'injustices, ils ont été rejoints par d'anciens jagunços, des mercenaires au service des grands propriétaires terriens, qui ont alors revêtu leur accoutrement traditionnel, leurs vestes de cuir, leurs chapeaux au bord redressés. Leur chef, c'est Lampião, le Lampion, qui est devenu le défenseur de la veuve et de l'orphelin. Il est de plus un disciple du Padre Cicero, ce mystique illuminé vénéré dans tout le Nord-Est. Lampião a parcouru le sertão avec sa femme Maria Bonita et une bande de 50 cangaceiros durant 19 ans, avant d'être abattu par la police en 1938. Il est devenu une véritable icône. Et le film tourné par Lima Barreto en 1953 l'a rendu célèbre dans le monde entier. La chanson « O Cangaceiro » a été traduite dans plusieurs langues à travers le monde. On l'entend durant la scène où les cangaceiros à cheval accompagnent en chœur le chant de Maria qui célèbre les femmes dentelières du sertão. On ne voit que la silhouette des cavaliers dont la caravane se découpe à l'horizon sur fond de coucher de soleil flamboyant. « Olé, mulher rendeira » chante-t-elle. « Tu m'apprends ton métier, et moi, je t'enseigne l'art de l'amour. »«
Olé, mulher rendeira, olé, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, eu te ensino a namorar. »
La musique du film O Cangaceiro, primé à Cannes en 1953 et qui a inspiré, dit-on, les premiers westerns italiens. Le dernier cangaceiro a été Corisco, le lieutenant de Lampião. On l'appelait le diable blond et il a été abattu en 1940. Le cinéaste Glauber Rocha s'en est inspiré dans son film Le Dieu noir et le diable blond en 1964. L'exécution des cangaceiros, la mise en scène macabre de l'exhibition des têtes de leur chef décapité en a fait des martyrs entrés dans la légende, ce à quoi ne s'attendait pas le président Vargas qui avait ordonné leur extermination. Vargas qui, dès 1936, déclenche au Brésil une véritable chasse aux sorcières suite au soulèvement vite réprimé de militaires brésiliens affiliés au Parti communiste. L'écrivain Graciliano Ramos est interné sans procès au bagne de l'île Grande. Le leader communiste Luis Carlos Prestes et son épouse Olga parviennent à se cacher un moment avant d'être arrêtés le 5 mars. Luis Carlos Prestes est condamné à 16 ans de prison. Olga, allemande d'origine, juive et communiste, est livrée à la Gestapo au port de Rio sous la supervision de Filinto Müller, le sinistre chef de la police. Elle est déportée le 18 octobre, alors qu'elle est enceinte de 7 mois. Internée à son arrivée au camp de Ravensbrück, elle est transférée à Bernburg, où elle est gazée en 1942. Elle aussi est entrée bien tristement dans la légende. Un livre et un film raconteront en 1984 son destin tragique.
Au mois de septembre 1937, la venue au Brésil de Pablo Casals bouleverse les mélomanes. Le violoncelliste a dû s'exiler dès le début de la guerre civile en Espagne. Et il est devenu un héros de la lutte contre tous les fascismes. En novembre 1936, il avait enregistré à Londres le Kol Nidrei de Max Bruch, dont nous entendions la première partie sous la direction de Sir London Ronald. Au Brésil, les événements se précipitent. Le 10 novembre 1937, la République est enterrée. Vargas arroge tous les pouvoirs et proclame l'instauration de l'État nouveau, ou Estado Novo. Si le terme est emprunté au dictateur Salazar, Vargas, contrairement aux Portugais, veut faire de sa dictature un moteur de la modernité. Il commence par annuler l'autonomie des États et par interdire tous les partis politiques, y compris le parti pro-nazi. Les murs et les façades dans les États du Sud où la population germanique est importante et où jusqu'alors les croix gammées et les drapeaux allemands fleurissaient sont nettoyés. Tout est bien ambigu ces années-là. Malgré l'interdiction du parti, plusieurs communistes notoires ne sont pas arrêtés. C'est le cas de l'écrivain Jorge Amado, de l'architecte Oscar Niemeyer, du peintre Portinari ou de Carlos Drummond de Andrade. Par contre, le maire de Rio, Pedro Ernesto, et son collaborateur Anísio Teixeira, ceux-là même qui avaient porté à bout de bras le projet d'éducation populaire, sont arrêtés. Jorge Amado dira, et c'est un euphémisme, que le régime de Vargas, c'est la chose la plus difficile à comprendre au Brésil.
Carrefour des Amériques, une série de Marcel Quilliveré pour les médias francophones publics.
L'ondante du 6e quatuor de Villa-Lobos par le Hollywood String Quartet. Getúlio Vargas reste aujourd'hui encore un personnage sujet à bien des polémiques. Et comment comprendre l'engagement de nombreux communistes à ses côtés? Manuel Correa do Lago tente de démêler cet écheveau bien complexe.
C'est très curieux de penser qu'une des choses qui ont été le plus associées au gouvernement Vargas, qui, disons, à la dictature qui s'est vraiment établie à partir de 1937, donc le Estado Novo de Vargas, qui est le Cantor Feónico de Villa-Lobos, quelque chose qui a été créé sous l'inspiration d'Anísio Teixeira. La grande concentration dans le stage de Vasco da Gama, 40 000 élèves de toutes les écoles de Rio chantant ensemble. C'était un rare moment d'ordre démocratique au Brésil, mais disons, cette image a collé de manière très tenace à ce Villa-Lobos, et de la même manière que Niemeyer ou Portinari ont indirectement été associés à des événements promus par le gouvernement brésilien. Par exemple, le pavillon Brésil à la foire de New York en 1939, c'est Niemeyer, Costa et Portinari. La musique de Villa-Lobos, qui était tout à fait apolitique, il acceptait ses communistes. Il faut constater qu'il y a eu des persécutions horribles, il y a eu des choses atroces. Il y a le fameux cas de Olga Prestes, enfin... Il y a un personnage assez affreux dans cette période, qui est le chef de police Filinto Müller. Ceci dit, et ça ne diminue en rien la gravité des atrocités qui ont été pratiquées, mais le fait que les gens les plus capables du Brésil, même s'ils étaient de gauche, en fait, ils étaient en ce moment-là mobilisés dans les divers départements d'État brésiliens. C'est un fait assez unique.
Valsa da Esquina, numéro 2, une valse au coin de la rue, de Francisco Mignone par Sergio Barcelos. L'historienne française Armel Enders résume bien les paradoxes de l'état nouveau de Vargas. Malgré la censure tatillonne, explique-t-elle, ce n'est pas un état totalitaire ni entièrement fasciste, car il ne s'appuie pas sur un parti unique, et sa politique culturelle reçoit l'adhésion de nombre d'opposants. Mais il faut bien le dire, pour les dissidents déclarés, la vie est très compliquée. C'est le cas pour Oswald et Mario de Andrade à São Paulo, même s'ils s'engagent officiellement d'une manière ou d'une autre dans le développement de la culture. Vu du dehors, le Brésil n'est qu'énergie et progrès. Pour l'écrivain autrichien Stefan Zweig, qui s'y est exilé, c'est alors la terre de l'avenir. C'est le titre de son livre paru à Rio le 1er août 1941. Et il salue les aspects très positifs du gouvernement, notamment la reconnaissance officielle du métissage comme fondement de la nation brésilienne. Et il ajoute, à toutes les forces du Brésil encore inconnues, une nouvelle s'est jointe dans les dernières années, la conscience nationale. Le Brésil a appris à penser aux mesures d'avenir. Et l'homme qui vit dans ce pays sent au-dessus de lui le battement puissant de ses ailes. Stefan Zweig étonnera beaucoup l'écrivain français Georges Bernanos, installé là-bas depuis peu et ardent opposant à Vargas, par son pacifisme à toute épreuve en pleine guerre mondiale, lors de leur rencontre si amicale, si émouvante, dans le Minas Gerais, peu avant le suicide de l'écrivain autrichien en février 1942. Quand le président Vargas, engagé dans l'industrialisation du pays, entame en 1938 des négociations avec les Américains, le philosophe français Jean Mauguet, compagnon de Lévi-Strauss à São Paulo, raille ce chef d'État qui, dit-il, danse alors la samba, un pas vers les États-Unis et un autre vers l'Allemagne et l'Italie.
Odaline de la Martinez dirigeait ici son ensemble Lontano dans la fantaisie brésilienne de Francisco Mignone. À São Paulo, la vie culturelle a pris un nouvel élan. Mario de Andrade a convaincu le gouverneur, pourtant très conservateur, de soutenir financièrement l'orchestre symphonique et de fonder un nouveau chœur professionnel. Le pianiste français Alfred Cortot, en tournée au Brésil, écrit lui-même à ce gouverneur pour lui exprimer son admiration envers le jeune compositeur de 28 ans
Camargo Guarnieri, qui obtient du coup une bourse du département de l'éducation pour se perfectionner. Guarnieri part donc à Paris, mais auparavant, il écrit en 1937 une œuvre qu'il intitule « Flor di Tremembe », la fleur de Tremembe. C'est ainsi qu'il désigne affectueusement sa deuxième épouse, Anita Queiroz, qui est née dans cette petite bourgade au nord de la ville, où un quartier s'appelle d'ailleurs la Vallée des Fleurs. Il lui dédie cette musique qu'il sous-titre « Choru ». Il introduit dans l'ensemble orchestral plusieurs instruments populaires, comme la petite guitare ou cavaquinho, instrument essentiel des orchestres de chorus. L'œuvre est créée au retour du couple de Paris en mai 1940 à l'école de musique de Rio. Le succès public est tel qu'elle est bissée et qu'elle obtient le prix de la musique de l'État de São Paulo. Et le musicologue Andrade Murici parle d'elle comme d'une petite musique de nuit telle qu'en composait Mozart ou Haydn. Le choru, précise-t-il, est une musique d'inspiration libre, avec parfois une section improvisée, en quelque sorte une musique bossa, comme on désigne aujourd'hui cette technique populairement. Tiens, une des toutes premières fois qu'on utilise le terme bossa au Brésil pour désigner une nouvelle tendance musicale. Flor di Tremembe lorgne aussi plus d'une fois avec humour du côté du jazz nord-américain. Thank you. L'ensemble mexicain La Camerata de las Américas, dirigé par Joel Sachs dans cette Flore di Tremembe de Camargo Guarnieri. Au Brésil en 1938, le 1er mai est fêté officiellement par l'Estado Novo, tout comme l'anniversaire du président, qui à cette occasion prend l'habitude de s'adresser aux masses, comme il dit, par l'apostrophe « travailleurs du Brésil ». Le 13 mai, au Théâtre municipal de Rio de Janeiro, on célèbre par un grand concert le cinquantenaire de l'abolition de l'esclavage dans le pays. Et en juillet, la cantatrice Marian Anderson est accueillie en véritable héroïne de la cause des Noirs aux États-Unis. Elle donne 4 récitals au Théâtre municipal et reviendra très souvent. Villa-Lobos la rencontre et il compose pour elle, 3 ans plus tard, son poème de Itabira sur le texte de Carlos Drummond de Andrade, « Voyage au sein de ma famille ». Dans le désert d'Itabira, l'ombre de mon père m'a pris par la main. Mais il ne disait rien. Et nous avons marché longtemps, jusqu'à cette rue qu'il traversait autrefois à cheval, au galop. Il y avait même ici une maison. On a ouvert alors des malles, on a réveillé des souvenirs violents, et je lui ai crié « Mais parle-moi !» Mais il a gardé le silence. La mezzo-soprano afro-brésilienne Maura Moreira, le National Orchestra de Washington sous la direction de Walter Händel, dans cet extrait du poème de Itabira de Villa-Lobos, enregistré ici sur le vif en 1968. Et voilà que le Mexique revient encore au Brésil, décidément, parce que le boléro mexicain n'a pas dit son dernier mot. En début d'année 1936, deux ténors débarquent à Rio, Alfonso Ortiz Tirado et Pedro Vargas. Tous deux ont fait des triomphes à Buenos Aires et leurs voix sont familières aux auditeurs des radios brésiliennes. En mai 1936, Pedro Vargas est engagé par la radio Tupi de Rio de Janeiro pour des concerts en public dans son grand studio. Et c'est l'écrivain mexicain Alfonso Reyes, ambassadeur au Brésil, qui le présente aux auditeurs venus en masse. Pedro Vargas chante ses plus grands succès, dont le fameux Un viejo amor, où sa voix fait merveille. Un ancien amour, ça ne s'oublie jamais.
Un viejo amor, ni se olvida ni se deja. Un viejo amor, de nuestra alma si se aleja, pero nunca dice adiós, un viejo amor. Ha pasado mucho tiempo y otra vez vi aquellos ojos. Me miraron con despego, fríamente y sin enojo. Y al notar ese desprecio de ojos que a mí me lloraron, pregunté si con el tiempo sus recuerdos se olvidaron, porque un viejo amor ni se olvida ni se deja. De nuestra alma sí se aleja, pero nunca dice adiós, un viejo nuestra alma, sí, sí se aleja, pero nunca dice
Pedro Vargas fait alors plusieurs allers et retours à New York où sa réputation n'est plus à faire et où il est accueilli par des salles combles. Mais il revient chaque année au Brésil. En 1939, c'est la consécration quand il chante en novembre et décembre devant le public très sélect du prestigieux Casino d'Urca, alors à l'apogée de son histoire. Une superbe salle ouverte en 1933 dans un ancien hôtel de luxe sur cette petite plage de Rio. Il aime chanter avec de grands chanteurs populaires brésiliens, comme la guitariste et chanteuse Olga Coelho, et surtout, celle qui va devenir l'une des artistes les plus aimées et les plus admirées du public ces années-là, Dalva de Oliveira, fascinée par lui quand elle l'a entendu pour la première fois. Dalva sera l'une des plus grandes interprètes brésiliennes de musique hispanique et notamment de tango et de boléro. Je n'ai su chanter que l'amour et la douleur, dira-t-elle souvent. Et Dieu sait si elle a souffert du machisme et du harcèlement cruel de son mari, Heriberto Martins, auteur de plusieurs de ses succès. Elle a été très admirée, car elle a su résister et se battre pour la cause des femmes. Et elle a été en plus la référence de deux grands chanteurs du tropicalisme dans les années 1970, Maria Bethania et Ney Matogrosso.
É comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é pro fundo da rede, segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar. Quando o infortúnio nos bate a porta e o amor nos foge pela janela, felicidade para nós está morta e não se pode viver sem ela. Para o nosso mal não há remédio, coração. Ninguém tem culpa da nossa desunia. É comentar o passado. Ninguém precisa saber o que houve entre nós dois. O peixe é pro fundo das redes. Segredo é pra quatro paredes. Não deixe que males pequeninos venham transtornar os nossos destinos. O peixe é pro fundo da rede. Segredo é pra quatro paredes. Primeiro é preciso julgar, pra depois condenar.
C'est sur la voix de Dalva de Oliveira et sur son grand succès Segredo, ou Le Secret, que nous nous quittons aujourd'hui, avec aussi un grand merci à Manuel Correa do Lago pour son soutien et sa complicité passionnée lors de mon séjour au Brésil. Rendez-vous donc dans le prochain épisode de Carrefour des Amériques, une émission des médias francophones publics réalisée par Béatrice Trichet, à la technique Pierre Monteil, attaché de production Nelly Portal. On peut bien sûr écouter ou réécouter cette émission en podcast.